Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée en ce mardi 14 février 2023, jour de Saint-Valentin pour les amoureuses, les amoureux, bien évidemment, mais aussi jour de soirée Europe. Et oui, avec la fameuse Champions League édition 2022-2023, le Parc des Princes illuminé ce soir, la ville lumière, et oui, pour accueillir des jeunes joueurs venus des vallées bavaroises. Le Bayern de Munich en 8e de finale aller, le Paris Saint-Germain donc, avec cette pléiade de stars. On apercevra un certain Kylian Mbappé, on l'espère en tout cas, avec aussi un sacre à la fin de cette saison pour le seul club français, on le rappelle, en lice toujours pour une coupe européenne, en tout cas la grande coupe européenne qui est la Champions League. 21h ce soir, le Paris Saint-Germain donc dans son antre rencontrera le Bayern de Munich. Vous restez donc bien à l'écoute de Beurre FM, votre radio préférée, chers auditrices et auditeurs. Le numéro du standard, on le rappelle, le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Ce soir, on parlera et bien aussi des entraîneurs. Et oui, les entraîneurs virés depuis juillet 2022. Il y en a eu près de 50 en tout cas, 49 exactement. Le Paris Saint-Germain ce soir avec toutes ses stars, c'est ce qu'on en espère. Avec justement la compo qu'on va balancer avec toute l'équipe de Time Sport. Et sans oublier aussi Galtier, le visionnaire malgré lui, assez décrié l'entraîneur français. On reviendra justement sur l'entraîneur du club de la capitale. Allez, on va aborder dans un premier temps ces entraîneurs virés, mais on va garder dans un coin de notre tête, mais aussi tout au long de cette émission, le match de ce soir 21h, on le rappelle, le Paris Saint-Germain qui rencontrera le Bayern de Munich pour le 8e de finale. Allez, le 01 53 48 3000. On rappelle aussi le sujet, le débat du jour. Le PSG peut-il aller jusqu'au bout? Voilà, c'est la parole que l'on vous donne, rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM, au 01 53 48 3000. On vous fait remporter, comme chaque semaine, de magnifiques ouvrages aux éditions Solar. Sans plus tarder, on va accueillir notre invité.
Time Sport. The special one, the special one.
Lionel Bélanger, encore une fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On l'accueille que les grands soirs de grands matchs. Voilà, c'est ce qu'on reçoit comme message tout au long de la journée. Ça sera super bien, Bilal. Il y a Lionel avec nous ce soir pour parler justement, pas que de football, mais aussi de ces hommes qui arborent ces équipes, qui sont sur le banc de touche et à qui des fois on en lance des insultes et aussi qui sont un peu décriés tout de même, hein, Lionel. Hein. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui les avaient formés, qui les avaient tant un peu, si je peux me permettre, foisonné et aussi donné de la valeur à ce poste-là qui est le poste d'entraîneur. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Bilal.
Comment ça va?
Très bien, très bien.
Très très bien. Oui, avec nous, encore une fois. Ce soir, on a avec Lionel, un consultant qui n'est autre que Brice. Brice, comment ça va, Brice?
Bonsoir Bilal, bonsoir Lionel, ça va très très bien.
Oui. En pleine forme. Soir de match, grand
c'est
match.
Un peu hein. Dans le ventre, hein, tu sais, avant les grands matchs.
Oui, c'est ça.
Que ce soir, le PSG joue très, très gros quand même.
Oui, c'est vrai.
Et on va pas se mentir, la saison du PSG se juge en fait à l'aune de la Ligue des Champions, même s'il y en a plein qui déplorent ça, mais c'est la vérité. Et donc ce soir, on a 50% du chemin qui va être fait en huitième de finale.
Ouais.
Et on sait que pendant longtemps, ça a été un peu quand même le mur qui leur faisait face. Notamment l'année dernière, et donc là c'est l'heure de vérité.
On va voir. Anthony, allez, au standard et à la réalisation, c'est notre réalisateur au 01 53 48 3000. Anthony, bonsoir.
Vous êtes qui, monsieur?
Faut arrêter, Anthony.
En roue libre.
Eh oui, en total roue libre. Ce soir, c'est Ligue des Champions. Comment ça va, Anthony?
Eh ben écoute, ça va, c'est la coupe aux grandes oreilles, hein, après...
C'est ça, tout à fait.
Après quelques mois d'absence, après la Coupe du Monde, j'espère que tout le monde va bien, et j'espère que Paris va remporter cette... Cette coupe aux grandes oreilles. Après Marseille en 93.
C'est vrai, ça fait très longtemps en 93. Hein. Faudrait un autre sacre.
J'étais pas né.
Lionel, hein. Qu'est-ce qui manque à ce football français? On voit cette pépinière avec tous ces jeunes joueurs quand même qui arborent les couleurs des grands clubs européens, qui partent aussi dans des centres de formation, dans des grands de gros cylindres. Mais c'est vrai qu'en France, il nous manque un peu cette détonation, si je peux me permettre, mais aussi ces entraîneurs tels que Deschamps, Zidane, Wenger, ou encore le très bien aimé et regretté un certain entraîneur Gérard Houllier du côté de la Vallée du Rhône. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'en voit plus trop sur de haut. Il en manque quelquefois. Galtier peut-être.
Alors oui.
Garcia aussi. Renard, mais encore.
Je crois que c'est le succès quand même de la formation française.
Ouais.
Les éducateurs, les entraîneurs, ils sont pas pour rien. Donc il y a une formation française qui est reconnue, la preuve, puisque pas mal de pays européens viennent chercher des joueurs, des jeunes joueurs en France. Bon, c'est vrai qu'ils viennent moins chercher des entraîneurs, ça c'est clair, et c'est plutôt nous qui allons chercher des entraîneurs, en tout cas en Ligue 1 en particulier, même en Ligue 2, les présidents font confiance aux Portugais, c'est par période d'ailleurs, hein. Il y a des vagues, il y a Espagnol, il y a Portugais, il y a les pays d'Europe centrale aussi, un peu moins d'Allemands, pas trop d'Anglais,
oui.
Mais c'est vrai que bon, ça correspond aussi à un processus de mondialisation, d'internationalisation du football, c'est une réalité. Bon, je pense que les entraîneurs français ont une belle réputation, bon, moi je les vois dans le cadre du BEPF avec la
ouais.
FN.
Qu'elle vous formait.
Christophe, par exemple. Galtier.
C'est ça, Galtier.
On a sorti, si on reste très dans une période récente, là, des garçons comme Franquès, quand même, qui a eu son BEPF il y a 2 ans.
Oui.
C'est
du bon
des
boulot.
Des garçons comme Régis Lebry, par exemple.
Aussi.
Que j'avais.
On en a parlé aussi.
Que j'avais l'année dernière en formation
ben voilà.
au BEPF. Et chez lesquels on sent une
c'est monsieur fabrique les nouvelles stars.
Et en particulier, justement, une sensibilité à la communication.
Ouais.
Qui n'est pas le cœur de leur métier. C'est vrai, on attend d'eux de la technique, de la tactique, de l'organisation, du rapport aux joueurs, mais la communication occupe une place tout à fait considérable aujourd'hui. Et ceux-là, effectivement, ont cette qualité de communication.
Ouais.
Tant avec les jeunes qu'avec les joueurs plus expérimentés. Et il faut savoir quand même qu'un entraîneur, en Ligue 1 en particulier, alors, aujourd'hui, très souvent, il fait le grand écart. Il va avoir des joueurs professionnels
ouais.
qui ont 28, 30 ans, 32 ans, qui ont quand même 10 ans de carrière déjà, et puis des jeunes de 17, 18 ans.
Ouais, très
c'est
jeune.
Un grand écart en termes de management. Les codes ne sont pas les mêmes, la manière de fonctionner n'est pas les mêmes, etc.
On l'oublie parfois,
oui,
que
oui,
c'est,
oui, oui, oui.
Vous voyez, dans la difficulté oui. aussi. On a des plus jeunes, on a des moins jeunes. Il n'y a pas la même façon de former, eux aussi, de manager ce groupe-là.
Bien sûr.
C'est vrai?
Bien sûr, bien
tout
sûr.
Comme au Paris Saint-Germain, peut-être.
Bien sûr.
Avec toutes ces stars et aussi, oui, les égaux des uns et des autres.
En plus, aujourd'hui, ils doivent traverser des moments difficiles, des situations.
C'est ça.
Des conflits.
Des hauts,
etc.
des bas.
Donc, la qualité des réponses qu'ils apportent là est tout à fait essentielle. Les présidents n'ont pas toujours raison, mais
ouais.
ils ont au moins une raison quand ils ont cette fameuse formule « le coach a perdu son vestiaire ». Et dans certains cas, c'est vrai.
Ouais.
Le coach a perdu son vestiaire. Ce n'est pas dans tous les cas.
Bien sûr.
Il y a d'autres raisons parfois qui font qu'il se sépare d'un coach. Mais quand la relation n'est plus là, c'est fini. Quoi. C'est fini.
On poursuit avec Brice, réaction ouais. avec notre invité ce soir, Lionel Bélanger, sur l'antenne de Beurre FM.
Oui, Lionel, moi j'avais une question toute simple. Vous avez cité Franck Hess et Régis Lebry. Enfin, on voit des gens qui font un très très bon travail. Mais comment ça se fait qu'on a encore du mal à exporter nos entraîneurs? On sait que les joueurs, vous l'avez dit très justement, en fait, s'exportent facilement. On parle de la Ligue des Talents. Et au niveau des entraîneurs, on sait que c'est quand même assez difficile. On a eu Rudy Garcia il n'y a pas si longtemps à la Roma. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à exporter nos entraîneurs dans des grands clubs?
Je crois qu'ils pêchent par manque de réseau. C'est un problème. Et ça aussi, ça fait partie de la compétence des coachs aujourd'hui. Par exemple, dans le BEPF, c'est un point qu'on n'aborde pas assez, certainement. Il faut savoir vivre en réseau, il faut savoir créer des relations, il faut avoir un carnet d'adresses. Par exemple, les entraîneurs portugais, on a parlé d'une filière, hein, où ils y pensent, ça se construit, ça s'élabore, etc. Et les coachs français, peut-être, ne l'ont pas. Alors, ils vont en Afrique, ils vont au Proche-Orient, ils ont une belle réputation en Chine, par exemple. Bon, mais c'est vrai que dans les grands pays de football italien, espagnol, allemand, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Bon, ça a été un événement
oui.
quand Arsène Wenger est parti en Angleterre. Et on connaît la réflexion historique qui avait été dit, Wenger, ouh,
ouh. Ouais. Mourad nous écoute ce soir, fan d'Arsenal.
Qui c'est Wenger sauf ouais. qu'il est resté 20 ans.
Il a
pas gagné la Champions League.
Non, dommage. Même,
palmarès extraordinaire.
C'est incroyable.
Une expulsion de Jens Lehmann en 2006.
Ouais, c'est vrai, face au Barcelone. Hein, au FC Barcelone.
Stade
de France. Ça s'est bien passé en plus.
Gérard Rouillet, que j'ai bien connu, que j'ai accompagné longtemps, est resté une icône à Liverpool. Bon, il est resté 5 ans quand même, et
ouais.
surtout des problèmes de santé, malheureusement, qui l'ont vaincu en quelque sorte. Hein, mais si tu vas à Liverpool, Gérard Rouillet, c'est une réputation extraordinaire.
Quintuplé et Ballon d'Or de Michael Owen en 2001.
Extraordinaire.
Qui était derrière.
Sûr,
alors, Lionel Bélanger avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, si vous voulez réagir, chers auditrices et auditeurs, le 01 53 48 3000. On a Grégoire qui nous écoute ce soir. Il est un fin supporter des Lyonnais, justement. Qu'est-ce qui manque à ces clubs? Est-ce que ces clubs français, avec leur président, handicapent pas les équipes, les centres de formation? Il nous pose cette question, Lionel, pour essayer de faire évoluer tout cette voilà ce côté on va dire de galvaniser de toute cette armada quoi du club pour oui. Faire propulser le club mais au plus haut et que des fois certains présidents en empêchent sans s'en rendre compte avec cette gestion que l'on peut des fois apercevoir ou même où elle est décriée cette gestion du côté du Paris Saint-Germain oui, par exemple.
Je crois que le football alors, a ce caractère quand même imprévisible, c'est pour ça qu'on l'aime certainement d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a une telle popularité, c'est ce caractère imprévisible. S'agissant de Lyon, comme de beaucoup d'autres clubs, on peut critiquer évidemment à certains moments, par exemple l'attitude des dirigeants lyonnais, etc. Bon, moi je crois dans la notion de cycle. Il n'y a pas un club qui échappe à cette notion de cycle. Que ce soit le Bayern, que ce soit Liverpool, que ce soit le Real de Madrid, que ce soit Lyon, les dirigeants de Lyon et le président Aulas, il était là quand ils ont été 7 fois champions de France de suite, quand ils ont été jusqu'à la demi-finale de Champions League, c'était déjà lui qui était là. Bon, les autres dirigeants autour, plus ou moins, mais il y a une notion de cycle. Liverpool, quand Gérard Houllier est arrivé, ils étaient à l'agonie, Liverpool. Ils ne gagnaient plus rien. Et pour eux, c'est terrible. Donc, ils étaient aussi dans un mauvais cycle. Ils sont revenus dans un bon cycle. Bon, Arsenal revient, parce qu'après le départ de Arsène Wenger, quand même, il y a eu une période, etc. Donc, je pense que vraiment, je comprends les supporters, qui ont cette espèce d'idée de permanence, on est au top niveau, etc.
Aussi.
Bon, il y a des cycles dans lesquels, à certains moments, tout converge, ça fonctionne, il y a une résonance, il y a un très bon centre de formation à Lyon, ça devrait revenir. Il y a une équipe dirigeante, ils ont un outil formidable qui est leur stade. Bon, il n'y a pas beaucoup de grands clubs européens aujourd'hui qui sont propriétaires de leur stade.
Lyon l'est.
En ce sens-là, Aulas, c'est un grand dirigeant.
Oui.
Alors, il a raté peut-être, ou son staff, des opportunités, des recrutements, il a fait des mauvais choix. Mais comme dans la vie des entreprises, hein, il y a des moments où tu fais des mauvais choix. Qui est-ce qui prend des décisions en permanence toutes bonnes dans le bon sens? Je connais personne.
Ouais.
Mais alors moi, pour prolonger sur Lyon, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi... Alors, parce que là, le cycle... Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Lionel, enfin, sur le cycle qui fait partie de la vie du football. Mais est-ce que là, le cycle lyonnais, justement, le cycle, on va dire... Le cercle vicieux, en fait, qui est en train de s'installer.
Oui, bref.
Justement, il ne dure pas depuis trop longtemps. C'est-à-dire que moi, j'imagine que Lyon, avec la puissance qu'ils avaient, avec les bases qu'ils avaient, ils auraient pu être, en fait, la seconde locomotive de la L1, en fait, derrière le PSG. Ouais. Et là, ça fait quand même 7-8 ans que c'est un peu la galère et qu'il y a eu des mauvais choix, aussi bien les coachs et puis aussi les directeurs sportifs. On a l'impression, voilà, est-ce que. Oui. Il n'y a pas eu un moment, un truc qui a été raté au moment de l'arrivée de QSI, mais du côté de Lyon, pour être un peu la deuxième locomotive.
Oui, alors c'est vrai qu'au sortir d'un cycle très favorable, il se passe des choses. C'est ce qu'on appelle, dans le domaine du management, des périodes de transition. Bon, si tu prends le panorama du football français, il y a des clubs qui ont eu des grands cycles, comme Saint-Étienne, comme Reims, comme le Racing Club de Paris, ils en ont eu qu'un cycle. Hein. Derrière, ça s'est effondré. Ils ne sont jamais revenus. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que Lyon est dans cette situation-là. Mais ils vivent cette période-là. Ils vivent cette période de transition dans laquelle il faut retrouver ses marques. Bon, il y a un président qui n'est pas à vie, forcément, qui va s'en aller, qui a revendu, tout ça, etc., qui ne joue pas le même rôle. Donc, ils ont un nouveau cycle à créer. Alors, ça tarde un peu, peut-être. Il y a les ingrédients, il y a le centre de formation qui est quand même une véritable pépite. Hein, c'est un élément fort.
Ouais.
Bon, il faut un coach aussi fort, qui joue un rôle important. Mais je pense que le cycle peut revenir.
Beaucoup d'auditrices, d'auditeurs qui nous écoutent ce soir. On a notamment Fala, un de nos consultants, qui est sur le périph', qui va rejoindre le Parc des Princes, et qui nous dit, oui, on boit toujours les paroles. On aime beaucoup ce Lionel Bélanger. Et il nous demande, est-ce que ce cycle, Marseille l'a connu, l'Olympique de Marseille? Bien sûr. Ou est-ce que c'est loin derrière, Marseille, alors?
Il y a eu la grande époque Tapie, quand même, forcément. Et même avant. Alors, par exemple, Marseille, c'est intéressant. C'est alors, un club qui, dans son histoire, a eu plusieurs cycles. Et des chutes énormes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont non seulement raté des transitions, mais sauf erreur de ma part, ils ne sont pas redescendus en national, en Ligue 2.
En Ligue 2, oui, à l'époque. C'était la Ligue 2.
En Ligue 2, division en national, mais tout juste. Bon, il y en a qui vont jusqu'en national. Bon, tristement, Bordeaux, quand même, aujourd'hui, est descendu en Ligue 2. On ne l'attendait pas. Bon, Saint-Étienne, très difficile. Donc, les clubs vivent ce que vivent les entreprises, c'est-à-dire des cycles. À un moment donné, ça ne matche plus, quoi. Ouais. Ça ne matche plus.
On a Toby qui nous dit, chaque club a son historique, son passé, son ADN, mais on ne peut pas parler que de cycle, Lionel. C'est la réaction que l'on reçoit, les auditeurs. Ouais.
Oui, les supporters, ils espéraient que ça soit permanent.
En fait, on espère toujours qu'il y a un niveau minimum.
Bah, évidemment.
Et que le niveau minimum, c'est par exemple pour des clubs que vous avez cités, que ce soit Saint-Étienne, Bordeaux, qui sont des clubs historiques.
Oui, si.
On imagine que le minimum, c'est l'Europe. Mais après, c'est plus compliqué. Et puis en plus, en France... Il y a quand même une caractéristique, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez l'Espagne, il y a deux, trois très gros, on va dire même deux très gros, et puis après derrière ça tourne. Il y a une époque c'était la Corogne, c'était après ça a été Valence, après voilà. Et en France, ça a toujours été quand même beaucoup plus équilibré un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus compliqué aussi. On n'a pas de clubs qui ont 25 titres, comme c'est le cas par exemple en Italie,
Ou en Espagne même.
En Espagne.
Ouais, ou en Allemagne. On va l'écouter, c'est notre réalisateur. Hein. Lui, il est amoureux des Aiglons de Nice. Anthony, alors avec l'invité.
Exactement. Vous en pensez quoi un peu du Didier Digard? Est-ce que c'est pas un peu le nouveau Franck Hez qui a à Lens?
Alors, attention, il vient d'arriver, il en est à combien? 4 matchs, 5 matchs?
C'est plus, ça 7. Et il n'a pas ses diplômes en plus.
Il n'a pas ses diplômes.
Voilà, c'est ça.
Il n'a pas ses diplômes. Bon, il était très proche, je crois, du staff, où il en faisait partie déjà,
oui,
je crois.
C'est ça.
Il en faisait partie, il s'occupait de la réserve.
Exactement.
C'est ça, il s'occupait de la réserve. Donc, on a aussi le cas de l'entraîneur belge de Reims, qui, alors lui, en plus, il a 30 ans. Digard, il a quand même une carrière de pro derrière, il a 40 ans, je crois.
36, 37.
Celui de Reims, il a rien. Il a 30 ans, lui. Et il réussit assez remarquablement quand même. Bon, il faut attendre, encore une fois, il ne faut pas se précipiter. Mais ce sont des gens qui montrent des belles dispositions, incontestablement. Ils montrent des belles dispositions, et comme par hasard d'ailleurs, ils semblent bien réussir sur le plan qualité de communication. En dehors de leurs compétences techniques, footballistiques, etc. Lui, apparemment, il a une bonne relation avec les joueurs. Et d'après ce que j'ai entendu, en gros, il y a des joueurs qui ont dit est-ce qu'il fait des choses différentes de son prédécesseur Favre? Ils disent non, il ne fait pas, mais il le dit différemment. Il le dit différemment. C'est extraordinaire, ça. Il le dit différemment. C'est que Favre, quand même, il vous voyait ses joueurs.
Ouais. C'est Todibo, je crois, qui a dit, mais arrêtez de nous vous voyez, c'est...
Vous voyez, c'est fort. Alors, il a le droit.
Ça met une distance.
Je crois que Capello le faisait aussi.
C'est une culture romande, je connais bien les Suisses romands. C'est une culture romande, de distance, il n'y a rien de mal à ça. Ils peuvent aimer beaucoup les gens et les vous voyez, mais ce n'est pas trop les codes de jeunes joueurs de 25 ans, de 22 ans dans les clubs français, quoi, qui tutoient le coach. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est que dans certains clubs, Todibo, il dit ça. Mais moi, ce que je sais dans les clubs, pour l'avoir observé, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui vous voient le coach, mais le coach les tutoie. C'est fréquent, ce dispositif-là. Hein.
C'est vrai.
Le coach tutoie les joueurs, mais les coachs le vouvoient. Donc, il y a des codes à trouver, quoi, en quelque sorte. Alors, qu'ils y aient été sensibles, c'est pas à cause de ça qu'ils se bougent sur le terrain et qu'ils ont des résultats. Mais ça en fait partie. Mais ça en fait partie, c'est sûr.
Rapidement, avant la pause.
Moi, une dernière question.
Oui, rapide.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une école française, une école de coaching, enfin, une patte tactique? Par exemple, on sait que les coachs espagnols, c'est la possession. Voilà, les coachs allemands, en ce moment, c'est le, désolé pour mon accent allemand, mais le gegenpressing.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a une école française? Ou est-ce que, en fait, tout le monde est un peu comme Deschamps, qui donne le là, pragmatisme?
Je crois que tous les joueurs, tous les entraîneurs, à 90%, je pense, sont d'anciens joueurs. Dont certains internationaux, mais pas forcément. Donc ils ont un passé de joueur. Donc ils sont passés par la formation aussi. Il n'y a pas... Alors effectivement, Guardiola a apporté le football de possession, Klopp travaille sur le football de transition, il y a des querelles un petit peu de chapelle là-dessus. Je pense qu'il y a une bonne synthèse, ils ont une bonne maîtrise. Quand on interroge des garçons comme, encore une fois, les plus récemment là, qui ont émergé, comme Franck Hez, etc., la formation qu'ils ont au BEPF est sérieuse. C'est l'équivalent d'un joueur, nous, dans la vie des entreprises, d'un master.
Ouais.
Ils viennent 3-4 jours par mois pendant 12 mois. Il y a un très gros partage d'expérience entre eux. Moi, je les vois à l'œuvre discuter sur leurs affaires techniques. Je suis très observateur, c'est pas mon domaine, mais c'est passionnant. Et on peut pas dire qu'ils ont une école, mais ils assimilent bien, ils maîtrisent bien. Mais ils sont pas. Alors, ok, il y en a pas, à ma connaissance, qui ont été inspirateurs d'une tendance ou d'une méthode. Ils n'ont pas été inspirateurs, c'est vrai. Bon, les deux filières, d'ailleurs, on
alors,
le connaît, c'est la filière portugaise-espagnole et la filière allemande.
C'est intéressant. Lionel Bélanger, on va faire une courte pause. La première de cette émission, on le rappelle, le président d'Ibel, qui traite aussi des conférences, du coaching, de la formation, directeur aussi académique pour les programmes courts à HEC. C'est bien ça, Executive Education. Il est aussi consultant pour la formation, on le rappelle, des entraîneurs professionnels du football auprès des 3F de la Fédération Française de Football. Magnifique ouvrage de Lionel Bélanger avec préfacé par Gérard Rouillet. Ils ont garé le bus devant le bus, pourtant on a réussi à marquer aux éditions ESF. Allez, une courte pause avant de revenir avec le Paris Saint-Germain.
Timesport revient dans un instant.
Timesport sur Beurre FM.
Et oui, de retour, 20h20, à l'approche de 21h, en ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin. On verra comment ça va se passer. Hein. Brice, c'est le match ou c'est le dîner avec l'amoureuse? Bon, on n'en dit deux. Pas plus. Oui, les deux. Ben voilà, tranquillement à la maison, ou même, je sais pas, dans des restos, au sein même de la région parisienne, ou même dans Paris, à travers le monde, hein, on fête la Saint-Valentin. Le 01-53-48-3000 pour réagir avec, justement, Lionel Bélanger. Alors, on va partir du côté du Parc des Princes.
Timesport. Il est pour parler.
Il y en a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir hein, pour cette Ligue des Champions. 8e de finale, Lionel, allez. Le Paris Saint-Germain rencontre donc les voisins allemands, le Bayern de Munich de Nagelsmann. Hier, on avait nos consultants, on avait Achille du côté du Parc des Princes et aussi avec Nasser qui s'est dépêché dans les rues de Paris pour retrouver aussi la conférence de presse du Bayern de Munich. Et oui, des questions il en a posées. Ça a même été rapporté par nombre de nos reporters. Et oui, Nasser qui est avec nous au standard au 01-53-48-3000. On va le laisser justement avant d'avoir peut-être les compositions avec lui ou même avec Brice et Anthony. Bonsoir Nasser, comment ça va?
Oui, bonsoir à vous tous.
Ça va bien Nasser?
Bonsoir Bilal.
Comment ça va?
Bah écoutez, grosse soirée ce soir avec ce choc de la 8e de finale de la Ligue des Champions, match aller. Voilà, avec un gros match avec les compositions des équipes qui viennent de tomber, côté parisien comme côté du Bayern de Munich.
Mais justement, on va les balancer. Vous les avez, Nasser? Parce que nous, on les a, les compositions. On va enchaîner avec Brice et aussi avec Anthony. Allez, concernant le Paris Saint-Germain, Anthony, on t'écoute.
Et du côté du PSG, on aura Donnarumma dans les cages, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Zaire Emery, Verratti, Danilo, Soler, Neymar et enfin pour finir, Messi. Côté remplaçant du PSG, on a Rico, Le Tellier, Kimpembe, Mbappé, Fabien Ruiz, Bernat, Vitinha, Pembele, Bichabou, Garbi et Etiquité.
Ça c'est pour le Paris Saint-Germain.
Exactement.
On va balancer pour le Bayern de Munich. On t'écoute Brice, la composition.
Dans les buts, donc Manoyer est absent évidemment, donc c'est vrai. Ouais. Excusez-moi mon accent.
Ça ne fait rien.
Shane,
on t'excuse.
Gnabry, Davis. Excusez-moi, je suis parti sur les remplaçants. N'importe quoi moi. Le 11 du Bayern, pardon.
Non, le 11.
Évidemment, Sommer, le gardien suisse, désolé. Ouais. À droite, Pavard, De Ligt, Upamecano dans l'axe, Cancelo à gauche, Kimmich, Koretzka au milieu, ça va être musclé.
Ouais.
Et puis les bombes sur le côté, Coman, Sané, évidemment Moussiala en 10,
et devant Choupo-Moting
qui va nous rappeler des souvenirs au parc.
Eh oui, de mauvais souvenirs peut-être, Lionel.
Oui. Ouais. Bah, la finale.
La finale, perdue. Ouais, par les Parisiens.
C'est vrai.
Ce soir, ils ont une chance, les hommes de Galtier.
Ouais.
On vous écoute.
Lionel. J'ai eu un petit échange de SMS il y a 3 jours avec Christophe.
Ouais. Alors.
Et je lui disais, je pense qu'il faut qu'il y ait un entraîneur français qui soit le premier entraîneur français à gagner une Champions League. Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'entraîneur français qui a gagné une Champions League.
Avec un club français.
Eh bien oui.
Dire.
Eh bien oui. Eh bien oui. Avec un club. Zizou, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Sauf Zidane avec le Real de Madrid, mais en France.
Oui.
Parce que c'était Goethals qui entraînait Marseille. Hein. Donc, il peut l'être. Il peut l'être. Et je pense que tout ce qui s'est produit cette année, tout ce que. Bon, les mauvais résultats successifs, tout ça, etc. Il n'y a pas de logique dans le football. Moi, je crois que ce soir, c'est déterminant parce que, à mon sens, s'ils franchissent l'obstacle du Bayern, je pense derrière que ça peut être l'année européenne du Paris Saint-Germain. Même s'ils ont. Alors, la Coupe de France est finie.
Bien sûr.
Ok, on n'en parle plus. J'aurais presque tendance à dire que c'est un mal pour un bien, à la limite. Hein. Bon, le championnat, je pense quand même qu'ils peuvent aller au bout avec, mais c'est focus sur la Champions League. Et s'il y a une année où le Paris Saint-Germain peut gagner une Coupe d'Europe, c'est cette année-là.
On a l'impression à chaque fois, les années se répètent. On dit toujours c'est cette année.
Ça va arriver.
Et oui, ça va arriver.
Ça va arriver. Et
plus de 10 ans, mais on y croit.
Peut être celui-là.
Bien sûr, il peut être celui-là, Lionel Bélanger.
Peut être celui-là.
L'entraîneur français.
Le Paris Saint-Germain, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le premier entraîneur du Paris Saint-Germain qui a été champion de France est un Français, c'est Gérard Houllier.
C'est vrai.
Et le premier entraîneur qui peut gagner la Champions League avec le Paris Saint-Germain, c'est encore un Français, ça peut être Christophe Galtier.
Ah ben pourquoi pas. Nasser, il en pense quoi? Christophe Galtier, champion d'Europe.
Il faut y croire, il faut que tout le football français doit se ranger derrière le Paris Saint-Germain ce soir, car comme je vous le dis, hein, on en a parlé plusieurs fois, c'est aussi l'indice UEFA qui se joue aussi dès ce soir, mais ils sont face à un ogre européen, le Bayern de Munich, 14 victoires en Ligue des Champions, 2 nuls. C'est donc un ogre qui se présente au Parc des Princes devant une ambiance ce soir qui va être phénoménale.
Ouais.
Phénoménale, Bilal, ce soir, ça va être... Vous vous rappelez, je vous avais prévenu pour l'ambiance du stade Vélodrome.
C'est vrai.
Et bien ce soir, et ben, je vais vous dire,
ouais,
ça va gronder, les oreilles vont siffler au Parc des Princes.
Ah ben bien sûr, ouais, grondez pas trop, Nasser, hein. Et là, reste avec nous. Oui, Lionel.
Je crois que tous les grands clubs européens qui vont se qualifier en quart, en demi, etc., tous, cette année, ils ont des problèmes. Tous, ils ont des problèmes. Alors, est-ce que c'est lié à la Coupe du Monde? Est-ce que c'est lié à la configuration particulière de la saison? Ou est-ce que c'est lié aussi à des phénomènes de cycle pour eux? Mais ils ont tous des difficultés. Donc, attention, le jeu est ouvert. Faut pas croire, faut pas faire de complexe. Ce serait terrible de faire un complexe. Et d'être dans une fatalité pour le Paris Saint-Germain.
Oui, il est d'accord avec M. Bélanger, Nasser. Brice, on va revenir avec Nasser, c'est promis.
Et bien, dans la ligne, alors, vient de dire Lionel, moi, en fait... Je vais vous dire, il y a deux raisons pour lesquelles moi j'ai...
Alors, lesquelles ?
La première raison, c'est parce qu'effectivement, année de Coupe du Monde, c'est année particulière.
Et on rappelle fait, aussi, les supporters
si
du Paris Saint-Germain.
Actuellement, oui, il faut le dire. Mais si vous voyez actuellement, il n'y a aucun club, aucun favori en tout cas, qui est impressionnant. Honnêtement, même le Bayern sort d'une période...
Comme le disait Lionel.
Compris, mais il n'y a aucun club qui paraît au-dessus du lot comme les années précédentes. Mmh. Honnêtement, à part Naples et Benfica, moi actuellement, il n'y a personne qui m'impressionne. Après, de savoir si Naples et Benfica sont calibrés pour aller au bout, c'est encore autre chose. Ça, c'est la première raison. Je pense que les cartes sont rebattues. Et ce qu'on a vu ces dernières années où il fallait énormément d'intensité, notamment beaucoup de jeux de transition et tout ça, cette année, peut-être que ce ne sera pas forcément le cas. Parce qu'en fait, on sait que le défaut du PSG, c'est quand ça commence à être un peu intense, c'est là où ils ont du mal. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est un peu mystique. Mais moi, quand les Qataris sont arrivés, je me suis dit, ils disaient, en fait, ils se donnaient 5 ans pour gagner la C1. Et moi, je me suis dit, bah, la dernière fois qu'on a vu un gros investisseur comme ça, bon, outre ce qui se passe avec les Emiratis à City, mais qui a mis du temps à gagner une C1,
oui,
c'est Chelsea,
c'est ça.
9 ans.
Abramovic.
Ils l'ont gagné l'année où c'était le plus improbable. 2012,
c'est vrai. Je suis d'accord.
C'était une catastrophe.
Pour ça que.
Mais à chaque fois.
Lionel peut avoir raison.
Exploit. Souvenez-vous ce qu'ils font au Camp Nou avec le lob de Ramirez, le 2-2, le Torres, tout ça. C'était incroyable. Ils vont gagner en plus contre qui? Contre le Bayern en finale, à l'Allianz Arena. Donc en fait, je me dis qu'il y a tellement d'éléments contraires.
Absolument.
Que pourquoi pas, en fait. Moi, c'est les années précédentes, je me disais,
ouais,
on est favoris, on peut aller au bout. Mais cette année, je me dis, en fait, bah non, il y a tout contre nous.
C'est vrai.
C'est cette année qu'on va le faire.
Eh oui, Lionel, avant de donner la parole, revenir à Anthony.
C'est le foot, ça.
Ouais, c'est comme ça, ça part dans tous les sens.
La logique, il n'y en a pas.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est passionnant. Il y a un côté imprévisible. Alors, il y a des réalités, c'est vrai. Il y a des réalités. Par exemple, le facteur réussite, le facteur chance, ça peut jouer. Pour les impondérables, comme les blessures, par exemple, c'est vrai. Ce sont des éléments, mais les entraîneurs ne maîtrisent pas ça. Hein.
Ouais.
J'avais lu une étude anglaise là-dessus, très fouillée, qui, en termes de statistiques, établissait que quand on intègre tous les impondérables auxquels est confronté un entraîneur, en gros, il agit sur 50% seulement du sort de son club. Il y a 50% qui lui échappe. Autrement dit, et ça vaut le coup de travailler quand même, puisqu'il travaille sur 50% des facteurs. Mais il y a 50% de facteurs qui lui échappent. Et dedans, il y a tout ce qu'on veut. Il y a la VAR, il y a l'arbitrage, il y a le terrain, il y a les blessés, il y a les tirs sur les poteaux, il y a tout ce qu'on veut.
Ouais.
Et c'est 50% qui lui échappe complètement. Donc, tu travailles, c'est comme si tu conduis ta voiture, tu te dis, il n'y a que 50% que je maîtrise. Ça fait chier la trouille, hein.
Ouais, beaucoup, hein.
Ça fait beaucoup, hein.
Ouais.
Ça fait beaucoup.
Ouais.
C'est beaucoup. C'est comme si on disait, par exemple.
À la fois peu et pas beaucoup.
C'est comme
pas
si
beaucoup,
on disait, par exemple, tes freins, ils répondent une fois sur deux.
Aïe.
Toi, t'es dans une bagnole, tu conduis ta voiture.
Ouais.
Tes freins, ils répondent une fois sur deux.
Je préfère à 100%, moi, Lunet.
On a. Lionel, ça le fait sourire. Réaction avec Anthony. On a pas mal de messages aussi qui fusent sur les réseaux sociaux. Anthony, on t'écoute.
Non, moi, je pense que pour le PSG, j'espère que Galati a remotivé ses troupes. Comme vous l'avez dit, je pense peut-être l'année pour le PSG. Si les planètes s'alignent enfin. Moi, c'est vrai que cette finale contre le Bayern, je pense que ça peut être une belle revanche. On se souvient, il y a 2 ans, je crois, où il neigeait même à l'Allianz Arena. Et pas l'Allianz Riviera, parce que tout le monde confond les deux.
Ouais, c'est
vrai.
Il
y en a un
qui
fait beau et l'autre qui fait moche, en Allemagne. un petit pic pour les Allemands. Non, mais c'est vrai que ce jour-là, Mbappé avait été étincelant.
Neymar aussi. Une symphonie, ce soir-là, Neymar. Ouais, souvenez-vous, la passe sur Marquinhos, l'ouverture du match.
Ouais, qui avait mis entre les jambes sur Neuer. Mais c'est vrai que pour Paris, je pense que ça peut être cette année. Et j'espère que Galtier va enfin faire jouer son 4-4-2 ou son 4-4-3 pour qu'on ait enfin une belle équipe.
Le PSG va évoluer en 4-4-2.
Je pense qu'aujourd'hui, le rôle des entraîneurs, c'est de créer les conditions. Voilà. Mais c'est important de créer les conditions. Mais en dernière instance, tu parles de Neymar, par exemple. Je pense, nous, en psychologie, on distingue deux types de motivation. La motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui vient de toi, et la motivation extrinsèque, par exemple les primes qu'on te donne, etc. Dans les grands événements comme ça, c'est la motivation intrinsèque qui fait la différence. C'est que si Neymar, si Messi, si Mbappé, si tous les autres, s'ils ont très envie d'aller la chercher, Galtier, il n'a pas grand-chose à faire là-dedans.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Galtier disait, je crois que c'était avant le match contre la Juve, oui, pour le retour, il fallait absolument gagner pour être premier. Et Galtier disait en conférence de presse qu'il n'avait rien à apprendre à ses joueurs parce qu'eux-mêmes avaient même plus d'expérience que lui en Ligue des Champions. En fait, c'est un facilitateur.
Intéressant.
C'est la motivation intérieure.
La motivation, on en parlait avec Nasser aussi.
Les coachs, on en cause au BEPF quand... À Clairefontaine, on parle de ça, c'est qu'ils sont sur le bord de la touche, ils sont sur le banc. Au bout de 10 minutes, quand ils regardent le jeu, il y a deux messages dans leur tête. Ils sont dedans, ils ne sont pas dedans aujourd'hui. Ils sont dedans ou ils ne sont pas dedans. Ils le sentent tout de suite. Sont dedans, ils ne sont pas dedans. Alors après, la variable, c'est par exemple combien de temps ils sont dedans. Parce que par exemple, tu as des entraîneurs qui s'arrachent les cheveux, ils ont tout préparé pendant une semaine, la première mi-temps est catastrophique. Les mecs ne sont pas là. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Là, quand t'es entraîneur, tu te dis, c'est pas possible, quoi, compte tenu de ce que tu leur as dit. Et puis, en deuxième mi-temps, tout change. Ils se réveillent.
Autre chose.
Ou l'inverse. Ils font une première mi-temps d'enfer. Il y a des périodes. Bon, aujourd'hui, le top niveau, c'est une intensité très, très forte, plusieurs fois dans le match.
On espère l'avoir.
Et concrétiser.
Ouais. Nasser, au 01 53 48 3000. Eh oui, assez intéressant l'invité.
Je rejoins ce que dit notre invité ce soir. Et les intervenants, les consultants qui sont autour de toi, Bilal. Ce soir, normalement, vous savez, Christophe Galtier est un très grand manager, et surtout au niveau psychologique. Il arrive à trouver les mots, justement, pour relever la tête de certains qui ont baissé, notamment face à l'Olympique de Marseille et face à l'Association sportive de Monaco. C'est pour cette raison que ce soir, je suis convaincu qu'on devrait voir une autre rencontre que ce qu'on a pu voir ces deux derniers matchs. Et voir un grand match du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, à la conférence de presse, on a vu un Neymar déterminé. On a vu un regard qui était vraiment déterminé. Donc, je pense qu'on devrait voir une grande équipe ce soir.
On va voir Nasser. On le garde avec nous, Nasser, avant ce match-là, 21h, on le rappelle. 8e de finale aller du côté du Parc des Princes à Paris. L'Olympique de Marseille, non, c'est pas l'Olympique Lyonnais, c'est le Paris Saint-Germain, justement. Le lapsus qui rencontrera le Bayern de Munich. À de suite.
Timesport sur Beurre FM. Timesport sur Beurre FM.
Oui, la dernière partie de cette émission, 20h35. Allez, à l'approche de ce match, on le rappelle, PSG Bayern de Munich. Si vous nous rejoignez, chers auditrices et auditeurs, vous pouvez réagir avec toute l'équipe de Timesport au 01 53 48 3000. On vous fait remporter de magnifiques ouvrages avec les éditions Solar. Mais ce soir, c'est Lionel Bellanger, notre invité, avec ce magnifique livre préfacé par un certain Gérard Houillet, Monsieur Houillet. Et oui, à qui nous pensons. Et oui, gloire du football français et aussi de sa façon de manager ses équipes de football. Ils ont garé le bus devant le but, mais pourtant, on a réussi à marqué aux éditions ESF, voilà, Science Humaine, Lionel Bellanger, on le rappelle, qui n'est autre que le président d'IBEL et aussi directeur académique pour les programmes au sein même de HEC, Executive Education, et aussi il est consultant à cette formation des entraîneurs professionnels auprès de la Fédération Française de Football. Il est toujours avec nous jusqu'à 21h, avec aussi à la réalisation Anthony, sans oublier notre consultant Brice, qui est là. Et oui, Brice, qui attend de pied ferme le match de ce soir, PSG Bayern.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, tant de choses à dire justement sur ce PSG Bayern de Munich, 8e de finale aller de cette édition 2022-2023, le 0 53 48 3000. Faites comme Nasser, vous nous appelez pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. C'est vrai que ce soir, eh ben on l'espère, en tout cas, selon les bookmakers, allez, qui donne quand même 39% de chance au Bayern de Munich de le remporter ce match. Et face à, au Paris Saint-Germain, 35%. Prolongation peut-être avec 26% concernant la planète des bookmakers. On espère une victoire des hommes d'un certain Galtier. Système de jeu mis en place 4-4-2. Ce soir, 21h. Brice Galtier, peut-être visionnaire aussi avec ce match perdu, certes, en Coupe de France face à Marseille, du côté de l'Orange Vélodrome. Mais en tout cas, malgré lui, il est toujours là, l'entraîneur français. Et il a peut-être du ressort derrière lui, il a peut-être cette on va dire ce panache à faire grandir et aussi peut-être à galvaniser ses troupes, on l'espère ce soir. Brice,
c'est le moment, on va savoir. Là, on est en fait pour prendre une métaphore un peu de montagne, on est dans les hauteurs. L'oxygène se raréfie et on va voir si lui il a de quoi respirer tout simplement. On va voir s'il est fait, si il est de la race des plus grands dans le monde du football. Et en face aussi, il y a quelqu'un qui est un peu comme lui aussi, de cette nouvelle école.
Nagelsmann,
qui est un coach très performant, qui a un coach qui a les idées très claires. C'est aussi cette école aussi du Gegenpressing. Désolé pour mon accent allemand. Et donc, on va voir ce que Galtier a dans le ventre. Moi, je trouve intéressant aujourd'hui, je voyais, il y avait une interview de Ramos, qui quand même a gagné énormément, qui parlait à l'UEFA, c'est une interview à l'UEFA, qui parlait de Galtier et qui a parlé de lui comme un grand leader, en disant que Galtier est quelqu'un qui est très honnête, qui dit toujours ce qu'il pense en face des joueurs et que c'est quelqu'un qui peut faire progresser cette équipe. Donc c'est quand même pas rien, hein, Ramos quand même qui a tout gagné au Real,
c'est vrai,
qui est élogieux à l'égard de Galtier. Donc ça veut dire que le groupe est encore derrière lui en tout cas.
Oui, Monsieur Bélanger.
Oui, c'est aussi un très beau duel d'entraîneurs parce que, comme Brice le disait, Nagelsmann, c'est une autre génération, c'est une autre filière aussi. C'est pas un ancien grand joueur, il a rien derrière lui en termes de palmarès. Mais il passe un peu pour l'intellectuel, il s'est construit. C'est toute la filière allemande, d'ailleurs, qui a donné effectivement ce jeu de transition, cette manière de fonctionner, etc. Très inspiré par un biophysicien allemand, Wolschon, qui a révolutionné certaines formes d'entraînement, de manière à expérimenter une approche situationnelle. C'est-à-dire que l'entraînement, ça doit être créer des situations, ne donner aucune solution aux joueurs, mais les entraîner à trouver eux-mêmes les solutions. C'est l'équivalent de la méthode Montessori dans l'apprentissage à l'école.
Ouais, avec les enfants.
C'est-à-dire qu'on ne donne pas, on ne fait pas de répétition. Wolschon, l'allemand, disait la répétition, c'est le poison de l'entraînement. Donc c'est très contestable d'ailleurs, parce que moi, par exemple, j'ai une position beaucoup plus nuancée. Je pense que le football est à la fois un sport d'exécution,
ouais,
mais aussi un sport d'inspiration. Il y a des sports qui sont purement des sports d'exécution. Si tu prends la natation ou des choses comme ça, c'est purement d'exécution. Il y a des sports d'inspiration, comme pas mal de jeux de balle, et le football en fait particulier. Donc il y a les deux, il y a inspiration et exécution. Et les entraîneurs, consciemment ou pas consciemment d'ailleurs, c'est là que la formation leur fait du bien, leur fait prendre conscience de ça. Par exemple, certains, de par leur caractère, leur tempérament, sont beaucoup plus dans la répétition, dans l'apprentissage répétitif des choses, et d'autres sont plus dans l'inspiration. Gérard Houllier m'avait dit, moi j'ai été voir Sacchi en Italie, ça a changé mon point de vue sur l'entraînement. Parce que Sacchi était justement aussi de cette école-là, qui est à l'entraînement, on crée des situations et les joueurs apprennent à trouver les solutions eux-mêmes. Ils apprennent à trouver les solutions. On ne leur dit pas, tu fais ça, tu vas faire ça, etc. Je pense que le football a cette extraordinaire puissance de travailler sur les deux registres. C'est pour ça que Wolschon n'a pas totalement raison quand il dit la répétition, il n'y en a pas.
Ouais.
Parce qu'il y a de la répétition, forcément, bien sûr. Un entraîneur, par exemple, qui travaille les corners, qui fait venir un spécialiste, puisque maintenant ils en sont là, ils font venir tous des spécialistes,
c'est ça,
etc.
C'est vrai.
Ça se sent tout de suite, hein. Ça se sent tout de suite. Quand tu vois comment certains tirent leurs corners, c'est-à-dire n'importe comment.
Ouais, même les penalties aussi.
Tu rigoles.
Ouais. Hein,
tu rigoles. Ils arrivent, alors c'est pas la perfection, ils marquent pas un but à chaque fois, mais ils arrivent à un taux d'efficacité largement supérieur. Et ça, c'est un travail répétitif, ça.
Ouais.
Typiquement répétitif.
Alors, on va prendre Nasser, justement, qui est toujours avec nous, hein, au 01 53 48 3000. Si vous voulez réagir, pronostic aussi, à balancer sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, chers auditrices et auditeurs. Le PSG rencontre donc le Bayern de Munich ce soir, 21h. Hein, on approche, hein, du coup d'envoi avec Brice, avec monsieur Lionel Bélanger, notre invité ce soir. On t'écoute, Nasser.
Eh bien oui, ça y est, la pression monte tout doucement ici au Parc des Princes, comme vous le savez, hein, beaucoup de monde qui vient ici au stade du Parc des Princes devant 50 000 spectateurs, j'allais dire 60 000, mais pas encore. Ouais. Mais en tout cas, vous l'avez vu, on peut bien sûr parler de cette petite pépite âgée de 16 ans qui est titulaire ce soir, Warren Emery, qui est titulaire ce soir, Zaïre Emery, qui sera donc titulaire au milieu de terrain. Et puis, c'est un nouveau schéma tactique qu'il a mis en place, Christophe Galtier, un 4-4-2. Ça va être intéressant à voir ce que ça va donner en absence, bien sûr, de Kylian Mbappé qui est sur le banc de touche, mais qui devrait rentrer sur la pelouse en seconde période pour y jouer une trentaine de minutes d'après les médecins du club.
Ah ben merci Nasser, on va le garder avec nous Nasser, on va rejoindre le Parc des Princes là aussi, on a Achille pour On Découte concernant le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. On est en studio avec Brice, on le rappelle, notre invité Lionel Bellanger. Achille, bonsoir, notre consultant journaliste, comment ça va Achille? L'ambiance justement.
Alors une super ambiance, on sent que c'est en train de monter de plus en plus, les supporters sont très conscients.
Ah oui.
Contrairement à ce qui pourrait laisser transparaître,
ouais.
On voit des joueurs qui sont très concentrés. Tout se passe bien, a priori. Attendons de voir, effectivement, comme l'a bien dit Nasser,
alors.
La titularisation de Warren Emery. Donc ça va être assez intéressant de le voir sur le terrain. Et puis, on l'attend toujours aussi, il est scruté de très très près, le gamin de Bondy.
Oui, Kylian Mbappé. C'est ça.
Kylian Mbappé. Aussi, Mbappé. C'est ça. Donc là,
va-t-il rentrer? Il faut nous balancer des infos, là, Achille. Ouais.
Oui, bah,
il est en bonne posture pour rentrer, le gamin de Bondy, justement.
Ouais. Ouais, mais justement, c'est possible. Hein. C'est une vraie possibilité. À côté du moment où il apparaît sur le banc, il y a de fortes chances, effectivement, qu'il fasse son apparition en fonction de la physionomie de la rencontre. Quoi.
Ouais.
Alors là, de ce que je vois, il est en train de faire des échanges de balles, des transversales avec les petits jeunes Ismaël Garbi.
Ouais.
Sur le terrain. Donc a priori, quand on regarde sa gestuelle, il n'a pas l'air d'avoir de gêne particulière, que ce soit pied droit, pied gauche. Donc ça semble être assez intéressant. Je suppose qu'il devrait très probablement, en fonction de la physionomie du match, rentrer peut-être pour les 30 dernières minutes. Quoi.
On va voir, justement. Mbappé avec Brice. Réaction Brice. Peut-être sur le terrain. On l'espère en tout cas.
Moi, je veux dire une chose encore une fois.
Ténacité, vivacité aussi.
Mbappé, il est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il défie toute logique.
Ouais.
On ne sait pas qu'il reviendra aussi vite. Vous vous souvenez qu'en conférence de presse, c'était Nagelsmann qui disait qu'il pensait que Galtier bluffait. Au final, je ne pense pas que Galtier bluffait une seconde. Enfin, je pense que vous le connaissez bien, Lionel. Je pense que c'est quelqu'un de très, très sincère. Mais je pense qu'encore une fois, Mbappé a défié toute logique. C'est assez extraordinaire. Et c'est cousu de fil blanc, il va rentrer, il va marquer. Voilà.
On l'espère. Lionel, Anthony, il espère aussi avant de retrouver Achille et de terminer.
Rentrer, il va marquer, il va les prendre dans le dos.
Ouais.
On va mener 1-0, il va les prendre
pourquoi
dans le dos,
pas.
Il va les mettre le deuxième et puis voilà.
On espère. Alors, Anthony, revient après à Lionel et à Achille.
Mbappé, moi, c'est un joueur qui me surprend, mais enfin, à la Coupe du Monde, c'est comme l'un des seuls joueurs après la finale, ne pas avoir pris de vacances, qui rentrait directement au centre d'entraînement du PSG. Qui s'est donné à fond, mais vraiment à fond. On l'a bien vu, je crois qu'il avait marqué un but quand il était rentré après la finale. C'est un joueur
Strasbourg,
qui a des
stats.
Ouais, je crois que c'est contre Strasbourg. Il avait des stats, mais extraordinaires qu'il a encore. Et Mbappé, je pense que c'est un génie, plus ou moins incompris. Les gens, des fois, le comprennent, et des fois, ils le comprennent pas quand il a dans sa vision du jeu. On peut l'en vouloir parfois peut-être un peu trop égocentrique, un peu trop le boulard, pour dire
oui.
Les termes. Mais je pense que c'est un joueur qui nous fait quand même du bien au PSG et en équipe de France. Parce que combien de fois on l'a vu, Mbappé qui n'est pas au PSG, qui n'est pas en équipe de France, et bah c'est ces deux équipes-là qui coulent. Et quand Mbappé y est, et bah en fait on rayonne, on surplombe toute la terre.
Et même psychologiquement, je suis persuadé que le fait qu'il soit dans le groupe, ça a un impact en fait pour les gars.
Clairement.
Bien sûr.
En fait,
bien sûr.
On a l'arme de destruction massive sur le banc en fait. À un moment donné.
Bombe atomique.
Et je pense que vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2013 quand Paris en fait est au Camp Nou et que Messi était blessé. Et il y a cette fameuse image de Messi qui remonte ses chaussettes et là t'as le bloc parisien qui recule de 20 mètres parce qu'en fait psychologiquement tu te dis oh là là. Je pense que les Bavarois soir quand ils vont voir Mbappé remonter ses chaussettes. Dans la tête,
chauffer.
Ça va être autre chose.
Bien sûr. Lionel, avant de terminer, on va retrouver Achille, rapidement.
Oui, moi je pense quand même que la meilleure des choses qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain, c'est qu'il fasse la différence sans Mbappé. Et ça, c'est la meilleure configuration. Et là, j'aurais tendance à dire que Christophe Galtier aura un cas de conscience dans ce cas-là. Imaginons qu'il mène 3-0, 4-1 ou chose comme ça. Faut-il le faire rentrer ? Parce que quand même, moi c'est la finale de la Coupe d'Europe qui est derrière. Hein. C'est encore 3 matchs derrière. Hein. 3 seuils à franchir, hein, attention. Hein. Et les médecins le disent parfois dans l'univers du sport, il y a toujours un danger à cette fameuse motivation intrinsèque du sportif qui ne parle pas trop, qui dit rien, il connaît son corps, mais parfois il prend des risques. Hein. Et il y a des entraîneurs qui nous le disent, ça. Le médecin s'est fait avoir, quoi. Hein. Donc attention, si jamais le Paris Saint-Germain a été dans une très bonne posture, là, je pense qu'il peut le faire rentrer 5 minutes, peut-être, pour comme ça, quoi. Mais ça serait la meilleure des situations, hein. À la fois pour le club, pour les autres et pour lui.
Mais d'ailleurs, on peut se demander, parce que justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand ça vient de la Coupe du Monde, on peut se demander si finalement il n'avait pas besoin de repos. C'est-à-dire qu'il a voulu enchaîner tout de suite. Peut-être que ça a joué aussi dans l'accumulation des matchs, mais bon voilà, après on va partir.
Mais là aussi, on parle beaucoup de la maturité de Mbappé. Bon là, quand on parle de maturité, on fait de la psychologie de la vie de tous les jours, c'est plus compliqué que ça. Sa précipitation quand il revient, qu'on appelle ça maturité, etc., je ne suis pas sûr, effectivement, que ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire qu'il a tellement été déçu de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, tellement été déçu, que c'est très très dur à vivre pour lui, et la seule réponse qu'il a trouvée, c'est d'y retourner tout de suite, quoi. C'est d'y retourner tout de suite, qui est une réaction justement un petit peu instinctive, émotionnelle, qui montre qu'il a du mal à digérer ce moment-là, quand même, cet échec-là.
Ouais, fallait qu'il s'y cibère, quoi. C'était un poids pour lui. Et on le voit à chaque but qu'il marque, d'une euphorie mais extraordinaire. Ouais.
D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup aimé sa communication. Alors, il disait que ce n'était pas au PSG de payer les pots cassés défaite. Oui. La maturité, encore une fois.
On retrouve Achille avant de terminer cette émission. Achille, justement, on est derrière le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain pourra le faire, donc, avec les hommes de Galtier. Hein, vous nous rassurez?
Oui, c'est une possibilité. Il y a de vraies chances. Après, de ce qu'on voit, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur le terrain à l'échauffement entre Neymar et Messi. Il y a eu beaucoup de communication, très probablement les échanges et le positionnement sur le terrain. Côté Bayern Munich, on a vu qu'ils étaient extrêmement impliqués. Ils sont d'ailleurs rentrés les derniers au vestiaire. Les Parisiens sont rentrés juste avant. On voit Eric Choupo-Moting qui est extrêmement concentré et Kingsley Coman qui est très très souriant, en espérant très probablement vouloir jouer encore une fois un mauvais tour, donc au Paris Saint-Germain, son ancien club. Et donc là, comme vous l'entendez si bien, il y a l'annonce des compositions d'équipe par le speaker.
Ouais. Et elle est comment l'ambiance là-bas au Parc des Princes ? Fais-nous un peu rêver, nous qui sommes en direct des studios.
Ouais.
Alors, pour le coup, c'est une ambiance, c'est une belle ambiance. On voit bien que le virage Auteuil est très très près.
Ouais.
Et pousse. Et d'ailleurs, pour la petite information, il devrait normalement afficher une banderole a priori sur Marquinhos ou autre.
Ouais,
il est possible qu'il soit sifflé d'ailleurs, Marquinhos.
Oh,
d'après les derniers éléments d'information en ce qui concerne les dernières déclarations de Marquinhos à la suite du match contre l'OM et contre l'AS Monaco.
Tout solidaire,
il faudra effectivement essayer d'être totalement solidaire.
Ouais.
Mais le reste du Parc des Princes est très enclin et tout le monde est derrière. A priori, le Paris Saint-Germain.
Ouais. Le pronostic d'Achille. Allez, concernant ce PSG Bayern, Achille.
2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Allez, on l'espère. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un grand merci, Achille. On reviendra avec lui aussi, avec le retour concernant cette zone mixte et aussi le retour d'après-match concernant le Paris Saint-Germain Bayern de Munich. On le rappelle, 8e de finale. Allez, justement. Allez, il nous reste à peu près 3 minutes. On est toujours en compagnie de Lionel Bellanger avec Brice à la réalisation, avec notre réalisateur Anthony. Vanessa arrive à 21h. Allez, je tiens à rappeler, c'est vrai que avec malheureusement ce ce drame qui est arrivé du côté de la Syrie et aussi en Turquie, avec un avion en cargo qui partira via Beyrouth en fin de semaine, et la fondation va envoyer, justement cette fondation qui est du Grand Paris humanitaire, va envoyer près de 20 tonnes de médicaments et matériel médical d'urgence. Cependant, les secouristes sur place demandent peut-être une liste de besoins prioritaires, et c'est vrai que c'est cette association qui, par l'intermédiaire d'auditeurs qui nous écoutent ce soir, qui font partie de cette association, le Grand Paris Humanitaire, des médicaments, des kits de chirurgie, matériel médical d'urgence, des marteaux piqueurs carrément, des pelles, des burineurs à batterie, des torches, des lampes, aux toiles alimentées, des tentes, couvertures thermiques aussi, des aliments hyper protéinés, excusez-moi, voilà, avec des barres de céréales, si je peux me permettre, des groupes électrogènes aussi, des générateurs d'électricité. Voilà, envoyer tout simplement à la Fondation du Grand Paris Humanitaire, organisation d'intérêt public, je tiens à le rappeler, à but non lucratif de la loi de 1901. Son siège est situé dans le 20e à Paris. On peut même faire du dépôt sur rendez-vous. On tient à donner aussi toute l'équipe qui coordonne ces besoins d'urgence, cette collecte avec la Fondation du Grand Paris. Il y a les secouristes, excusez-moi, de l'APHP, des hôpitaux de Paris, à en personne de Monsieur Touami au 06 67 59 65 76. C'est des personnes qui nous écoutent chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée. Voilà, je vous rappelle la coordination, la personne de Monsieur Touami au 06 67 59 65 76. Vanessa prendra le relais tout à l'heure et elle pourra même en reparler jusqu'à 23h parce qu'elle le fait toujours si bien, Vanessa. Nous, on tient à remercier Brice, mais aussi notre invité, d'avoir été accompagné aussi par sa petite famille ce soir, hein. Sa femme et aussi sa petite fille, et aussi aux auditeurs de Beurre FM, toujours là, de plus en plus nombreux chaque soir à nous écouter. Lionel, un pronostic ce soir. Lionel Bellanger, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich.
J'ai dit que je sentais que c'était l'année européenne du Paris Saint-Germain. Je signale quand même qu'il reste 7 matchs quand même.
Oui.
À l'heure de ce soir, là, il reste 7 matchs pour arriver à la finale quand même.
Ils vont le faire. Ils vont le faire, les Parisiens.
C'est un défi. Enfin, oui. Il faut mesurer quand même ce que ça
Bien sûr.
Quand même,
hein. Bien sûr.
Échelonner comme ça sur 2 mois, c'est 7 matchs.
Allez, ils sont prêts.
Très haut niveau, quoi. Parce que le Bayern, c'est une chose, mais en quart de finale, ça va être un gros aussi en face. Hein.
Bien
et
sûr.
On pourra se reposer les mêmes questions, même si ce n'est pas le Bayern.
C'est vrai.
On parlait de Benfica ou choses comme ça.
Il y a d'autres clubs.
Les quarts de finale, les demi-finales, on sera sur le même discours. Pareil.
Le pronostic alors ? Le score ?
Ils vont passer le tour.
Ils vont passer
Joker.
Le tour.
Je ne suis pas sûr.
Allez, Joker. Ouais.
Ils vont passer le tour.
Ils vont passer le tour. Anthony, pronostic ce soir, PSG-Bayern.
Oh, j'ai pas mouillé, je vais dire 1-0, ils vont faire le taf.
Ils vont faire le taf, 1-0.
Pourquoi pas aller 2-0?
Allez, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, tout comme Achille. On n'a pas eu, c'est dommage, le pronostic de Nasser. Brice.
2-1 pour Paris, parce que je vois pas Paris quand même ne pas encaisser de but. Il y a quand même la force de frappe en face.
2-1 pour Paris. Allez, nous, on vous dit justement une très belle soirée. Il y a Vanessa qui s'approche rapidement de ce studio 21h, 23h. Oui, Anthony.
J'en profite juste pour passer un petit message à un ami à moi qui vient de partir au Canada pour ses études.
Ah bah, c'est super ça.
Qui a été champion du monde U20 de hockey sur glace.
Bah, ça, c'est sympa.
Pour 5 ans. Donc, Thibaut, bah.
Longue vie à Thibaut. Bah, là, il est dans le pays où il faut, justement.
Champion du monde U20 qui a marqué
le continent nord-américain pour jouer.
Un doublé.
Ah, ben voilà. Ah, ben ça, c'est bien. Thibaut, on pense à toi. Courage à toi. Force et honneur. Lionel Bellanger, on le rappelle, avec ce magnifique livre préfacé par Gérard Rouillet. Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer aux éditions ESF Sciences Humaines. Oui.
Et tu parlais de la Turquie tout à l'heure.
C'est vrai.
Des joueurs professionnels qui ont été concernés.
Ouais.
Pensons à tous les petits gosses quand même.
Mais tout le monde.
À
tout le monde.
Qui jouent au foot.
Ouais.
Qui jouent au foot. Pour lesquels là, c'est terrible.
Eh oui. Bon, FM est solidaire avec justement cet effroyable accident survenu du côté de la Syrie, mais aussi en Turquie. Voilà, la suite des programmes avec Vanessa, 21h, 23h. Un grand merci à Lionel, à Anthony, à Brice et à vous aussi, chers auditeurs, sur la radio préférée concernant vous. Eh oui, sans vous, on peut rien faire. Un grand merci, une belle soirée à toutes et à tous.
Timesport, Timesport sur Beurre FM.